Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vive émotion en Chine après la mort du médecin qui avait alerté sur le coronavirus.
Pékin annonce ce matin l'ouverture d'une enquête. Ce jeune médecin s'était mis les autorités à dos en tirant la sonnette d'alarme dès le mois de décembre, alors que l'épidémie n'en était qu'à ses débuts. Accusé à l'époque de propagation de rumeurs, il vient de mourir, Philippe Dova, à l'âge de 34 ans, du coronavirus.
Oui, après avoir constaté chez plusieurs de ses patients des symptômes similaires à ceux du SRAS, le docteur Li avait été le premier, le 30 décembre, à alerter ses camarades de promotion du grand danger du coronavirus en leur conseillant de porter des masques et des vêtements de protection. Accusé de colporter en ligne de fausses rumeurs perturbant gravement l'ordre social, le jeune ophtalmologue et ses confrères avaient été placés en garde à vue par la police, puis libérés le 3 janvier en échange de leur mea culpa. Li avait alors repris son travail à l'hôpital central de Wuhan et contracté le virus auprès de l'un des malades. Muselé par la censure et en soins intensifs depuis plusieurs jours, le docteur Li a succombé au coronavirus la nuit dernière à l'âge de 34 ans. Depuis l'annonce de sa mort, des millions d'internautes chinois postent des messages de chagrin et de fureur. Pour avoir mis en garde les autres en sacrifiant ta vie, tu aurais dû être un héros. Tu es dorénavant un martyr, a ainsi écrit anonymement un chirurgien sur Weibo, le Twitter chinois.
Philippe Dova en Chine pour RTL. Alors que Pékin multiplie les mesures de confinement, la Chine reçoit officiellement le soutien des États-Unis. Donald Trump a affirmé cette nuit au téléphone sa confiance à son homologue Xi Jinping. Enfin, des nouvelles du navire de croisière toujours bloqué au large du Japon avec 3700 passagers à son bord. On apprend que 41 cas supplémentaires de coronavirus ont été détectés. Les patients ont été débarqués pour être hospitalisés.
RTL 8h02.
Tous les salariés d'Air France qui ont commencé à avoir connaissance de ce rapport sont profondément choqués et sont dans l'incompréhension totale.
L'indignation de la patronne de l'emploi, hein, cher Franck.
Laetitia Niodo, également en charge de la formation et de la diversité, est donc directement visée par le résultat de ce testing géant, le premier du genre en France. Testing sur les conditions d'embauche dans les grandes entreprises françaises. 7 d'entre elles, Accor, Altran, Arkema, Renault, Rexel, Soprasteria et donc Air France, sont accusées de discrimination à l'embauche. En clair, de préférer un nom à consonance européenne à un nom à consonance maghrébine. Laetitia Niodo.
En fait, on conteste à la fois la méthodologie et les conclusions de ce rapport. Aujourd'hui, c'est sur la base de 7 candidatures spontanées envoyées à on ne sait pas qui dans l'entreprise, et en tout cas en dehors de nos canaux de recrutement, qu'on conclut à une présomption de discrimination dans l'entreprise. Mais la réalité d'Air France, c'est plus de 100 000 candidatures reçues et traitées. En 2019, c'est plus de 4 000 embauches. Plus de la moitié sont des habitants des départements sur lesquels nos deux plateformes parisiennes sont implantées, Roissy et Orly. C'est ça la réalité d'Air France.
Propos recueillis par Vincent Serrano.
Alors dans ces conditions, on peut s'interroger, le CV anonyme est-il un échec? Eh bien c'est la question de 8h.
Et c'est avec vous Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les entreprises ont recours aujourd'hui au CV anonyme?
Ah bah peu, très peu. D'après le baromètre Segos qui a interrogé des collaborateurs et des DRH, seuls 30% des entreprises recourent aujourd'hui au CV anonyme. C'est moins, dit l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Bien moins d'une sur 10, renchérit la maison des potes qui défend le CV anonyme depuis ses débuts. Si les deux associations sont d'accord sur le fait que c'est un échec dans la mise en place, la maison des potes défend toujours l'anonymisation. C'est la meilleure méthode pour éviter la discrimination, assure son président. L'association des DRH répond que le CV anonyme est encore moins adapté aujourd'hui, à l'heure où les CV sont beaucoup plus sur Internet que sur papier.
Et que fait le gouvernement actuel pour lutter contre ces discriminations?
Eh bien, la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, avait annoncé sur notre antenne le 20 janvier dernier qu'elle présenterait, avec plusieurs ministres, la première stratégie gouvernementale construite avec les associations contre les discriminations. Une stratégie promise pour hier, donc, le 6 février. Mais pour le moment, vous le constatez, il n'y a pas d'annonce dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous dit-on désormais du côté du gouvernement. Une déception de plus pour les associations qui attendent désormais des actes forts et que le Premier ministre se saisisse du dossier.
La question de 8h avec Arnaud Touche.
Comme prévu, le conseil d'administration d'Engie s'est prononcé hier soir contre le renouvellement du mandat d'Isabelle Cochère à la direction générale du géant de l'énergie. La seule patronne française d'une entreprise du CAC 40 était en poste depuis 2016. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir avoir fait progresser davantage l'action du groupe en bourse.
RTL Matin, il est 8h04.
C'est pas tous les jours qu'on peut vous annoncer des bonnes nouvelles. Un constat rassurant de la Banque de France, les procédures de surendettement sont en forte baisse.
Moins 12% l'an dernier, mais c'est un mouvement continu avec une baisse de près de 40% ces 5 dernières années. Lorsqu'un ménage s'endette sans en avoir les moyens, cela peut conduire, on l'a beaucoup vu par le passé, au suicide. La prévention a fait des progrès. C'est moins facile aujourd'hui de céder aux organismes de crédit peu scrupuleux. Les départements multiplient des points d'accueil qui permettent d'identifier les profils à risque. C'est le cas dans la ville d'Agde. Explication d'Armel Lévy.
Au point conseil budget, Stéphanie Barraud accueille des femmes qui élèvent seules leur enfant, des travailleurs saisonniers qui n'ont pas de revenus fixes, des chômeurs et des retraités. Sa mission, leur apprendre à gérer un budget et repérer ceux qui pourraient bénéficier d'une procédure de surendettement.
On va voir effectivement s'il y a un cumul de dettes, s'il y a une capacité de remboursement, s'il y a un reste à vivre. Parce qu'on se rend compte des fois que les gens, ils ont pris la gorge, qu'ils n'ont même plus les moyens de pouvoir recourir à la dignité humaine, je dirais, parce qu'ils ne peuvent plus s'alimenter.
Mais il faut que ces personnes acceptent de monter un dossier de surendettement, ce qui leur permettrait d'étaler ou d'éponger leurs dettes.
Mais des fois, c'est trop tard, parce que les gens ont honte de parler de leurs dettes, se sentent stigmatisés, culpabilisent. Moi, j'ai des personnes, par exemple, qui sont âgées, d'accepter le dossier, ça a été compliqué parce qu'ils se sont dit, arriver à cet âge-là et se retrouver dans cette situation, c'est un échec. Mais après, ils n'ont pas regretté parce que, justement, ils ont expliqué que le dossier a permis de rebondir et, en plus, ils ont pu garder leurs biens. Donc, maintenant, ils sont un peu plus sereins.
Stéphanie a accompagné l'an dernier une centaine de personnes pour leur éviter de tomber dans une spirale infernale.
Reportage d'Armel Lévy. À l'approche des municipales, c'est un dossier qu'Emmanuel Macron ne veut pas garder sous silence. Le délicat sujet de la radicalisation et du communautarisme. Il a plusieurs fois promis des annonces, un discours, mais les choses semblent se préciser. Le chef de l'État a reçu hier à déjeuner avec le ministre de l'Intérieur des maires directement concernés par le problème. Celui de Trèbes, dans l'Aude notamment, hein, touché par le terrorisme en mars 2018. Il y avait aussi les maires de Sarcelles et de Poissy dans les Yvelines. Carl Olive, joint par Aurélia Valard.
Chacun a pu apporter l'expérience et parfois les problèmes qu'il rencontre. Par exemple, dans nos quartiers, nous avons des conseils citoyens. Eh bien, aujourd'hui, on n'est pas capable de suivre les actions du conseil citoyen. Autrement dit, quand un conseil citoyen part dans une dérive communautariste ou de radicalisation, eh bien aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au président de la République de pouvoir créer un délégué du préfet aux valeurs républicaines et à la laïcité, pour pouvoir derrière faire de la pédagogie.
Le maire de Poissy, Carl Olive, avec Aurélia Valarié.
Dans un court instant, pas facile hein, pour un club de foot, celui d'Angers en l'occurrence, de retrouver les terrains quand son président est accusé d'agression sexuelle.
Nous, on est focalisé sur le match. Après, pour tout ce que vous voulez évoquer, on a dit qu'on n'en parlerait pas, donc je ne vais pas commencer à ouvrir le débat là-dessus.
Allez, reportage après une page couleur.
RTL, 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal Jérôme Florin, Yves Calvi.
En football, Angers reçoit Lille ce soir, mais dans un climat bien particulier.
Puisque son président, Saïd Chaban, a été mis en examen cette semaine pour agression sexuelle sur des salariés et anciennes salariées du club, il reste manette malgré tout, sous contrôle judiciaire. Et les joueurs vont tenter de se concentrer sur l'essentiel tout à l'heure, Philippe Audouin.
Le SCO d'Angers fait comme si de rien n'était. Hier après-midi, juste avant la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, la consigne est donnée aux journalistes présents qu'aucune question ne doit porter sur le président Saïd Chaban. L'entraîneur angevin, Stéphane Moulin.
Vous êtes nombreux, je vous ai jamais vu aussi nombreux. Je pense que ça vous intéresse plus que nous. Nous, on est focalisés sur le match. Ça va être un match difficile. Après, pour tout ce que vous voulez évoquer, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Donc, je ne vais pas commencer à ouvrir le débat là-dessus.
Parmi les supporters du SCO, c'est la perplexité et la stupéfaction qui dominent, mêlées à beaucoup de prudence.
C'est embêtant, c'est sûr.
Très, très surpris, quoi. On ne s'attendait pas à ça, quoi. Choqué, on ne peut pas être choqué parce qu'on ne sait pas l'affaire.
Pas choqué non plus parce qu'on ne sait pas non plus ce qui s'est passé.
Ça m'a foutu un coup hier matin. Maintenant, pour rester un peu calme.
Tant que la vérité n'a pas été faite, on ne peut pas juger ni rien.
Reste que le match de ce soir se déroulera dans un climat particulier, en présence de Saïd Chaban, qui a prévu, comme d'habitude, d'assister à la rencontre.
Philippe Audouin, question délicate chez nos amis britanniques. Faut-il faire flotter le drapeau de l'Union Jack à l'occasion des 60 ans du prince Andrew? Le 19 février prochain, le fils de la reine d'Angleterre, vous le savez, est mis en cause pour ses relations avec le pédophile Jeffrey Epstein. Il est de tradition outre-Manche de hisser le drapeau sur les bâtiments publics lors des anniversaires des membres de la famille royale, eh bien le gouvernement a tranché, ce sera non. La consigne en tout cas a été transmise au maire, on verra si elle est respectée. Soyez prudents si vous prenez la route aujourd'hui, coup d'envoi des vacances de la zone C, ce sera rouge ce vendredi en Ile-de-France dans le sens des départs, orange demain en Auvergne-Rhône-Alpes.
RTL matin 8h11.
C'est un chanteur qui ne sait pas du tout que l'âge pivot veut dire...
Ça y est les gars, j'ai trouvé du boulot, je vais gagner des millions.
Marcel Amont, ah oui, qui fêtera en avril ses 91 printemps. Il n'est jamais plus heureux que lorsqu'il est sur scène et il enchaîne les concerts. Il vient d'être fait membre d'honneur de l'Académie du Béarn, sa région de cœur. C'est là que vous l'avez rencontré, Denis Grandjou.
Oui, même si la nostalgie n'est pas au cœur des préoccupations de Marcel Amont, le chanteur, après 70 ans de carrière, regarde parfois dans le rétroviseur.
On est des survivants, quoi. Qu'est-ce qui reste ? Juliette Gréco qui chante plus guère, Annie Cordy qui chante un peu, c'est ma copine, on s'appelle de temps. Il y a Hugo Frey qui a quelques mois de moins que moi, dont on a le même âge. Et après, ce sont des gens qui ont 20 ans de moins que nous. Maxime Le Forestier, Souchon.
Désormais, il chante en public une fois par mois, mais toujours avec la même passion.
Je ne sais rien faire d'autre. À 90 ballets, ça fait 70 ans que je vends de la chansonnette. Qu'est-ce que je sais faire d'autre ? Si je peux continuer à faire ce métier tant que j'en ai la force, eh bien, c'est ma plus belle récompense, quoi. J'ai une femme adorable, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Oui, la vie est belle. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb, et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu.
Marcel Amont, voilà, vous l'avez en tête maintenant pour toute la journée. Il sera d'ailleurs demain sur scène à Sanary dans le Var. Il était avec Denis Grandjou.
On termine avec l'histoire du jour.
Adieu à Popeye. Alors, ce n'est pas celui des épinards. Hein.
Ah oui.
Beaucoup moins sympathique. C'est le surnom du tueur à gages de Pablo Escobar, le célèbre baron de la drogue. Juan Velasquez, de son vrai nom, vient de mourir à 57 ans après avoir passé la moitié de sa vie en prison. Il s'était vanté d'avoir tué au moins 250 personnes, peut-être même 300, et avoir ordonné 3000 assassinats. Bon, cette fois, c'est lui qui a passé l'arme à gauche.
C'était le journal de Jérôme Florin.